7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler chaque jour du nord au sud. Et comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Les tchatcheuses, c'est un rendez-vous mensuel. Elles débattent déjà dans le studio pendant le journal. Trois langues bien pendues, comme on dit chez nous. Aujourd'hui, autour de la table, la journaliste indienne Veiju Naravan. Bonjour Veiju.
Bonjour.
Ex-plume de The Hindu. Aujourd'hui, vous collaborez à la BBC. Également dans le studio, l'Argentine Nathalie Kant. Hola Nathalie.
Hola.
On est ravis de vous retrouver. Vous travaillez pour La Nation et Courrier International. La Nation, c'est le grand quotidien argentin. La Finlandaise Anulina Savolainen. Bonjour Anulina.
Hey.
Pour une fois, j'ai pas buté sur votre nom. Hey. Et vous écrivez pour le journal Apu et le site d'information Europa Lehti, qui veut dire le journal de l'Europe, c'est ça? En finnois. Et quant à vous, les voisines et les voisins, bien sûr, vos commentaires sur les débats de ces dames, sur Facebook, sur Twitter, pour vos arguments et éventuellement vos énervements. Commentaire, tiens, de Facebook, sur Facebook, posté par Mohamed, aujourd'hui de Bamako. Grâce à votre émission, je crois en la capacité des femmes. Bah, moi, je dis que c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire.
Formidable.
Hein ? Bon, bah, on va continuer. Voilà, ça nous donne des ailes pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout de suite.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir, aimer parler, y prendre du plaisir.
Les tchatcheuses, elles ont du caractère.
Elles parlent beaucoup de choses. Tout chat, ça veut dire causer, sans contrainte.
Elles décident pour elles-mêmes, elles sont en bande.
C'est le plaisir de dire ce qui vous passe par la tête.
Ça parle.
Dire tout ça, ça fait du bien.
Les tchatcheuses sont énervées.
La parole est à la tchatcheuse indienne Veiju Naravan. Vous vous interrogez sur ces filles têtes brûlées qui rejoignent en ce moment, depuis quelques mois, les rangs de l'État islamique en Syrie.
Oui, absolument. C'est un phénomène que je n'arrive pas à comprendre, parce que si on voit les garçons qui ont commis les attentats, etc., il y a beaucoup parmi eux qui sont vraiment des rejets de la société, hein. Qui tombent dans la criminalité, par la suite récupérés par les imams radicaux, etc. Mais pour ces filles, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'elles viennent des familles tout à fait intégrées socialement. Ce sont des filles souvent qui sont des élèves brillantes.
Il y a quelques semaines, trois lycéennes britanniques 15-17 ans qui sont parties rejoindre les rangs de l'EI en Syrie.
Oui. Et on trouve qu'elles sont souvent recrutées par d'autres femmes comme elles qui sont déjà parties. Effectivement, on parle d'une fille qui est issue de Glasgow, qui voulait devenir médecin, et toutes ces trois filles qui sont parties de l'Angleterre, il y avait une qui voulait faire des études de pharmaciste, des autres voulaient devenir avocat ou prendre des professions de ce genre. Et là, du coup, on trouve les trois filles qui ont 15 ans, deux qui ont 15 ans et une qui a 16 ans.
Ça, c'était il y a quelques semaines, quelques jours.
Oui, absolument. Et on se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces filles qui sont pourtant bien intégrées, avec beaucoup d'amis, qui sont bien à l'école, qui travaillent bien. Et on dit, beaucoup d'experts dans ce genre, sur cette question, disent que c'est l'idée romantisée de la femme qui part en bataille, en combat pour aider leur djihadi, leur prince charmant. Mais ce qu'on ne raconte pas à ces filles, c'est que la vie qu'elles auront en Syrie ou en Irak sera vraiment contraintes, fermées, elles ne peuvent pas sortir toutes seules. Ça
d'ailleurs,
vraiment...
aucune fille n'est revenue, à ma connaissance.
C'est
bien le grand drame pour les parents, pour les familles.
Tout à fait.
Mais est-ce, que, est-ce qu'elles vont combattre ou elles vont pour se marier, rester? Parce que moi, je ne vois pas non plus des filles qui combattent.
Pour le moment, non.
Elles ne vont pas combattre.
À ma connaissance, il n'y a pas de cellule de combattantes.
Elles sont là pour tenir les maisons des combattants. On leur trouve des maris, très rapidement. Elles vont
des
d'abord...
maris qu'elles doivent en plus partager ou
qu'elles doivent partager, pas forcément, peut-être ça peut arriver, ça je ne sais pas, mais elles vont d'abord dans un foyer, une espèce de foyer pour femmes, et très vite, on leur trouve des maris.
Donc c'est très organisé en fait comme
c'est
système.
C'est très organisé.
Mais ce qui me choque aussi, c'est que c'est comme il s'agit des jeunes, des adolescents, on sait que ces âges-là de 15-16 ans, on est très fragile, à plein d'influence, on n'a pas toujours aussi toutes les informations, mais c'est encore plus choquant parce que imaginez les parents aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser.
Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'au début, elle commence à établir des liens par Facebook ou Twitter avec ses recruteuses, mais par la suite, très vite, elle passe en message encrypté. Donc, c'est très difficile pour les forces de police de voir avec qui elles sont en train de parler ou avec qui elles sont en contact. Et c'est ça, ce côté très organisé, très encrypté des messages qui fait vraiment peur.
En tout cas, ça déconstruit ce que vous disiez bien, Véjou, les thèses des problèmes d'intégration hein, pour ces filles qui n'ont pas de problème d'intégration, qui n'ont pas de problème d'avenir. Alors quoi, que faut-il faire? Elles se positionnent comme finalement des héroïnes en tant qu'épouses et mères. Un ventre vaut-il une Kalachnikov? C'est un peu ça, finalement.
Hein. Oui, finalement, c'est ça. Et puis, c'est cette idée très romantisée de partir dans le désert, aider les hommes qui luttent, d'être ces femmes au foyer qui sont derrière leurs héros.
Elle voit aussi les reportages des médias classiques démonter les dangers qui les guettent et qui les attendent, etc. Donc quand même, ça, c'est vrai que ça semble, c'est compliqué à comprendre.
C'est très compliqué à comprendre quel est le déclic psychologique qui pousse ces jeunes filles à entrer dans cette espèce d'aventure, parce que pour elles,
avec une place très à part dans cette guerre-là.
Tout à fait.
Enfin, voire pas de place.
Oui, absolument. La place est au foyer, la place est à faire le ménage et la cuisine et tout ça.
Mais ça vous plaît pas du
tenir
tout,
Véjou, la maison à l'âge de 15 ans.
Mais il y avait eu l'histoire d'une fille, par exemple, qui était partie un peu dans le cadre que vous racontez, Véjou, et qui était rentrée, elle avait essayé de recontacter sa mère pour rentrer chez elle parce qu'elle s'était rendue compte que c'était pas du tout ce qu'elle pensait, ce qu'on lui avait dit, je sais pas dans quel pays c'était. Qu'il s'était passé ça.
Mais il y a très, très, très peu de femmes qui rentrent. Hein. C'est ça aussi qui est très curieuse. On ne sait pas qu'est-ce qui leur est, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'elles deviennent mères très tôt? Comment est-ce qu'on garde les enfants? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'on leur permettrait de repartir chez elles?
Alors, en tout cas, on est dans cette Europe toujours post-attentat de janvier, post-attentat Charlie Hebdo. Et Nathalie Kant, vous aviez envie de revenir sur le dossier de courrier international. De quoi rit-on ailleurs? Vous avez un point de vue personnel sur la question?
Oui, non, c'est à partir de ce dossier, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte que finalement, les sujets de quels on rit parlent beaucoup de nous comme société. Et ça m'intéressait, par exemple, de savoir de quoi on rit dans vos pays. Parce que, par exemple, en Argentine, moi, en cherchant un peu des papiers pour présenter pour Courrier International, je voyais qu'on rit beaucoup. Il y a un petit peu de deuxième et troisième degré en Argentine, mais on rit
grâce à la psychanalyse, d'ailleurs.
Exactement, oui. Mais on rit beaucoup, par exemple, chaque fois qu'on parle... Bon, évidemment, si on fait des personnages politiques... on va rire. Et aussi le sexe. Chaque fois qu'on commence à parler du sexe, ce sont comme les deux sujets. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup de ce qu'on est, si on arrive à se décomplexer comme société ou pas, si on veut... Finalement, en parlant de certains sujets, on enlève tout préjugé. Ici, par exemple, en France, parfois, on a du mal, bon, à Paris au moins, rire de soi-même.
Mais ça, vous trouvez, vous, en tant qu'Argentine?
C'est-à-dire, c'est comme c'est beaucoup mieux se prendre au sérieux. C'est-à-dire, ça va toujours être plus intelligent de se prendre au sérieux que de rire de soi-même.
C'est vrai, si on fait des blagues sur soi-même, les gens le prennent en sérieux. Ils pensent vraiment que moi, je pense que je suis nulle si je fais une blague.
C'est ça, on va se dire, ils se dévalorisent.
Alors que c'est l'humour finlandaise par excellence.
Toutes
les blagues finlandaises un peu cultes sont des blagues sur la Finlande, et comme la Finlande est nulle et elle gagne quand même parce qu'elle pue trop ou elle est... Enfin, c'est vraiment l'autodérision par excellence. Et moi, c'est vrai que j'ai fait ce constat-là aussi avec les Français, c'est qu'il faut en fait éviter... de se moquer.
Surtout ne pas s'auto-dévaloriser.
Oui, alors,
il y a aussi l'humour comme rempart à la politique, au manque de liberté d'expression dans le dossier de Courrier International qui évoque le cas de la Chine, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite.
Oui, ça c'est intéressant et c'est aussi un peu plus délicat parce qu'il y a certains endroits, certains pays où l'humour, ça permet de dire beaucoup de choses. Par exemple, dans le cas, pour revenir avec l'Argentine, pendant la dictature argentine entre 76 et 83, il y a certains humoristes qui ont pu continuer avec leur métier sans parler, mais en faisant comprendre avec leurs blagues ce qu'ils voulaient dire. Et ces personnes sont devenues des personnages clés après dans le pays. Même maintenant, il y a une journée nationale de l'humour qui a été fêtée.
En novembre prochain,
C'est en novembre prochain, le 26, je crois. Et c'est parce que c'est le jour d'un humoriste argentin qui est malheureusement décédé, mais qui avait réussi à faire ça, de continuer avec l'humour, même en période de drame.
Mais plus que je regarde mon pays, le plus que je suis convaincue que les Indiens n'ont pas de sens du monde. De toute manière, c'était une civilisation tellement ancienne et tellement fin, on avait un sens d'humour. Mais il y a une espèce d'autocensure qui se glisse de plus en plus dans la société indienne. Et là, l'endroit où vous pouvez pratiquer l'humour commence à rétrécir énormément parce qu'il y a toujours le politiquement correct et vous pouvez pas dire ça et vous pouvez pas offenser celui-ci ou celui-là. C'est tout ça, ça a été mis en évidence pendant tout le débat qui a suivi les assassinats de Charlie Hebdo. Et tout de suite après, il y a eu des gens qui ont fait ce qu'on appelle le grand rôti, c'est-à-dire rôtir des gens dans une émission de télévision et qui ont vraiment dit des choses sur les uns, les autres, les politiques. Une immense tollé en Inde qui fait que les Indiens se montrent extraordinairement hyper sensible à tout ce qu'on peut dire à propos de leur habitude, de leur attitude et tout ça. Et il y a une intolérance à l'humour qui est absolument choquant dans un pays comme ça.
Voilà, on relance le débat. Juste alors, puisque vous parliez de politiquement correct, Anoulina Savolainen, le concours de l'Eurovision, c'est bientôt, hein, c'est en mai prochain.
C'est en mai, oui.
Voilà, donc pas loin de deux mois. Un groupe de musiciens punk atteint de trisomie 21 va représenter votre pays, la Finlande, au concours. Vous aviez envie de nous en parler. Est-ce qu'il s'agit d'un acte politique pour mettre enfin le handicap sur le devant de la scène? En tout cas, c'est à vous de vous faire une idée, les voisins et les voisines. Le groupe s'appelle PKN. Garçons finlandais, punk et trisomiques qui en veulent. Vous pouvez nous donner le titre de la chanson, Anoulina?
Ah, le titre, Aina Mun Pita.
Oui. Ça, on l'a entendu, c'est ce qu'ils chantent, mais ça veut dire quoi?
Voilà. Donc, c'est, le groupe d'ailleurs s'appelle Pertikurikan Nimipäivä, donc c'est un peu plus compliqué que PKN, mais personne ne le prononce, donc voilà.
Et ça veut dire quoi, le titre de la chanson?
Aina Mun Pita, ça veut dire toujours je dois m'habiller, toujours je dois me laver, toujours je dois me réveiller, toujours
bon, d'accord,
je dois
donc
me coucher.
Du, le problème du bon punk contestataire, quoi, ouais. Finalement. Hein,
du punk pur et dur.
Voilà, c'est ça, du punk pur et dur.
La seule différence, c'est qu'il s'agit effectivement d'un groupe de quatre hommes de 40 ans, plus ou moins, qui sont tous porteurs de la trisomie 21. Et il y en a qui sont autistes aussi. D'un degré différent. Et donc, le groupe existe depuis 2009. Et là, ils ont été sélectionnés en Finlande pour représenter notre pays dans l'Eurovision, qui est quand même plutôt connu pour des groupes et des morceaux très, très variétés. voilà, de l'amour, quoi. Et donc, c'est la première fois aussi qu'il y aura du punk dans l'Eurovision. Et c'est effectivement la première fois qu'il y aura un groupe de personnes avec difficultés d'apprentissage, comme on dit, je pense, en français, qui chantent. Donc, ça a suscité beaucoup, beaucoup de...
Alors, la Finlande, il faut quand même le signaler, n'a qu'une seule victoire à son actif. Hein, en 2006, je crois, avec un groupe hard rock metal, je vais y arriver, Lordi. Donc, voilà.
Quelle victoire, parce que c'était quand même 60 ans, un groupe, ouais. groupe de heavy metal habillé un monstre. Et je me rappelle toujours de Michel Drucker qui était choqué. En direct, il était là, mais avec ça, ils vont jamais gagner. Ils ont gagné. Sinon, la Finlande a toujours perdu. C'est la paye avec le plus de 0 points. De l'Europe, donc
bon, voilà. Mais quand même la question, c'est est-ce que c'est un concours artistique, est-ce que c'est le lieu pour faire passer des messages de société sur le handicap, parce que
il y a
un message derrière quand même.
Personnellement, je trouve que c'est pas que parce que ça n'a pas été quelque chose qui aurait été organisé pour qu'on représente un groupe en ça, c'est plutôt quelque chose que le groupe existait déjà, ils ont postulé pour la compétition de leur propre initiative. Sont donc des acteurs, c'est pas non plus des marionnettes qu'on aurait mis là pour gagner, c'est loin de là en fait, parce qu'il y avait quand même une compétition en Finlande qui était très très dure et tout ça, donc les gens ont finalement choisi ce groupe là donc moi il faudrait quand même arrêter de justement penser que ces gens là sont des espèces de victimes qu'on envoie là-bas pour qu'on gagne avec ces gens différents. Je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Et justement, mais c'est ça le message, qu'ils sont acteurs de leur propre vie.
Mais est-ce que ça ne fait pas partie de ce mouvement? Parce que l'année dernière, on a bien vu la personne qui avait gagné
l'Autriche,
l'Eurovision.
Avec Conchita Wurst.
Voilà, Conchita, donc, qui était un transgenre, comme on dit, avec une barbe, une femme barbue, qui avait gagné. Donc, est-ce que ça n'a pas commencer une espèce de tendance dans l'Eurovision où les gens pensent qu'il faut aussi donner peut-être la chance à des gens qui sont ouvertement gays ou ouvertement transgenres ou ouvertement autre chose.
C'est-à-dire, à défaut de découvrir des grands talents qui vont faire d'immenses carrières, parce que l'Eurovision n'a pas fait découvrir des talents inouïs.
Il y a eu quand même Céline Dion, mais qui était déjà chanteuse avant.
Oui, qui était déjà très connue.
Il y avait quand même le britannique Engelbert Humperdinck qui a eu quelques
tubes. Tu es spécialiste
après,
de l'Eurovision.
Il y a eu aussi ABBA. Oui. ABBA qui a gagné avec
Waterloo. Oui, mais ils étaient déjà connus avant.
Voilà,
ABBA n'était pas connu avant.
Ah bon?
Non. ABBA, ils ont été découverts par l'Eurovision. Mais je peux penser que à ces trois personnages, parce que sinon on a le Gérard Lenormand qui a vraiment perdu pour la France.
D'un côté, moi par exemple, d'un côté, je pense que c'est la Finlande, non? C'est la Finlande.
C'est la Finlande. Oui.
D'un côté, de la part de la Finlande, ça démontre qu'il y a quand même quelque chose. Je sais pas si le mot c'est avancé, mais ils sont un peu en avance par rapport à d'autres pays, parce que je sais pas, il y a pas d'autres pays qui l'aient fait avant, et c'est clair que derrière il y a un message. Il y a un message derrière, un message. Je sais pas que eux, c'est pas que la Finlande veut faire passer un message, mais il veut juste mettre en centre de la scène un groupe comme ça. Après, peut-être ce qui serait un peu dommage, c'est si le débat va tourner, si le débat va tourner autour de est-ce qu'ils ont gagné parce qu'ils sont.
Gagnent, ça sera l'événement pour la Finlande, puisque on le répète, une seule victoire en 60 ans, c'est quand même pas terrible pour la Finlande.
Oui, en plus c'est très important pour les Finlandais, c'est des gros débats toujours par rapport au choix de qui on envoie et tout ça, c'est les gens qui votent, hein. Donc c'est très très important pour les Finlandais, c'est sûr.
Mais mais vous, ça vous énerve en même temps, Anoulina, hein, quand on dit non mais il y a un message et tout, non, vous dites non,
parce
ils ont postulé, ils sont, voilà,
c'est pas ça,
ils vont
ce qui m'énerve c'est l'interprétation en fait. Là par exemple, j'ai vu un article sur Paris Match en français sur le groupe et il disait que le groupe chante sur les difficultés des personnes handicapées de se laver, c'est pas du tout ça, c'est universel, on doit toujours se laver, pourquoi?
C'est une vraie bonne chanson punk.
Voilà, c'est vraiment du punk pur radio, donc c'est ce genre d'aspect qui m'énerve, voilà.
Elle aime le rock punk.
En plus, j'aime bien ce morceau.
Dans la chanson. Les chatcheuses, vous êtes sur scène chez 7 milliards de voisins, on vous retrouve dans 3 minutes, juste après le flash. Surtout, restez avec nous, les voisins et les voisines, évidemment, vous pouvez poster pendant ce temps sur Facebook, dans quelques secondes, le journal sur RFI.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui chez nous. C'est vrai que c'est un peu le concours de l'Eurovision tous les mois. Aujourd'hui, l'Argentine avec Nathalie Kant, l'Inde, Veijo Naravan, la Finlande, Anulina Savolainen. Sauf que ça ne chante pas, ça tchatche. J'ai même du mal à le dire. Veijo Naravan, journaliste indienne. Dimanche, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Et il y a un documentaire de la BBC qui sera interdit de diffusion en Inde, qui revient sur l'affaire qui avait été largement relayée sur RFI, l'affaire du viol collectif de 2012 en Inde avec l'assassinat de cette jeune étudiante de 23 ans qui avait déclenché, on s'en souvient, des manifestations monstres dans les villes indiennes. Alors pourquoi India's Daughter, qui est le nom du documentaire de la BBC qui retrace l'histoire de cette jeune fille, ne sera pas diffusée en Inde? Quel est le débat? Quelle est la polémique?
Ne sera pas diffusé parce que moi je regrette que ce ne sera pas diffusé. Ma position là-dessus est très claire. Je suis du côté de réalisatrice Leslie Odwin qui a fait un travail absolument remarquable. Il n'y a aucune loi contre interviewer les gens qui sont prisonniers, qui ont été condamnés, surtout ce type Mukesh Singh qui était celui qui conduisait le bus pendant que ses 5 autres accomplices associés étaient en train de battre le jeune homme et violer la jeune femme à mort, littéralement. Elle a interviewé ce type qui est condamné à mort d'ailleurs
dans sa cellule
après avoir pris les permissions des autorités de la prison et du ministère des Affaires intérieures en Inde. Donc cette interview a été faite et là ils ont interviewé cet homme pendant 9 heures et il dit clairement d'abord qu'il ne regrette absolument pas parce que les femmes comme cette jeune femme qui se promènent avec les hommes qui ne sont pas leur mari invitent le viol. Deuxièmement, il dit que si elle avait soumis et s'il s'était pas battu, on l'aurait violé et on l'aurait pas battu. Et on l'aurait pas tué.
Ah, ouais.
Donc, il fallait.
Et il dit en gros aussi qu'une fille est bien plus responsable d'un viol que l'homme.
Absolument. Mmh. Et il dit qu'il y a que 20% des femmes qui sont des femmes bonnes parce qu'elles connaissent leur place, la place de la femme. Alors, et dans la maison, etc.
La question qui se pose, est-ce qu'il fallait laisser dire un truc pareil, finalement?
Mais effectivement, le problème est que c'est la position de, disons, au moins 60% des hommes en Inde. Il y a une telle patriarchie, les hommes croient fermement que les femmes sont inférieures aux hommes, elles doivent être soumises, elles doivent leur rôle est de cuisiner pour leur mari. On a eu un cas avec un juge dans un cas de divorce où il a dit, ah ben oui, le mari avait le droit de battre sa femme parce qu'elle ne cuisinait pas correctement pour lui. Donc quand vous avez des attitudes masculines, patriarcales et anti-femmes, comme ça, moi je pense qu'il faut...
Ce documentaire ne sera pas diffusé en Inde, pourquoi? Parce qu'on l'accuse de jeter de l'huile sur le feu, c'est ça?
Oui, on accuse de jeter l'huile sur le feu. On dit qu'elle a insulté la mémoire de cette jeune femme qui s'est battue et qui a été tuée par ses 6
elle
ans.
Elle a insulté
elle, non, que la metteuse en scène.
Oui, la metteuse en scène.
Oui, a insulté en faisant cet entretien, en diffusant les propos de ce condamné.
Et vous dites quoi, vous dites non, il faut laisser dire ça et il faut débattre derrière, débattre sans fin.
C'est ça, je crois qu'il faut lancer le débat, même s'il y a
des
hommes...
Il n'arrête pas d'être lancé le débat depuis 2012.
Oui, absolument.
Et sur les réseaux sociaux, partout.
Tout à fait. Et on voit que vraiment les attitudes n'ont pas changé.
Bon,
Parce que si on regarde les propos de l'avocat de la défense, qu'est-ce qu'il avait dit devant la cour? Ah, cette fille était condamnable et si c'était sa propre fille, il l'aurait ramenée à la maison par ses cheveux, il aurait mis du pétrole sur cette fille, il l'aurait brûlée devant les membres de sa famille. C'est l'avocat de la défense. Mmh. C'est pas un petit inculte quiconque qui est venu des villages qui n'a absolument pas d'idée de quoi il parle.
Mais pour les téléspectateurs, le fait de voir en Inde, s'ils voyaient le
documentaire
et ils voient cette interview, est-ce que ça va pas légitimer pour beaucoup d'entre eux, la, cette position dont vous parlez des hommes par rapport aux femmes. Et aussi d'autres questions.
Est même montrée par la BBC.
Oui,
et
après, l'autre question aussi, c'est, je sais pas comment elle a été faite l'interview, mais peut-être si la journaliste a posé les bonnes questions et a relancé quand lui il disait des choses, ça permet, je sais pas comment il est le documentaire, mais ça peut-être elle-même l'a condamné.
A été manipulée à travers les 9 heures d'interview, c'est ça, c'est...
Non, en fait, j'ai entendu l'interview, j'ai vu le film. Mmh. Et pour moi, c'est un film qui est vraiment un film de campagne contre les violences contre les femmes. C'est pas du tout un film qui est sensationnaliste. Effectivement, ce que disent les activistes femmes, c'est qu'en donnant la parole à cet homme, on est en train de renforcer les positions d'autres hommes qui vont dire, ah ben voilà, vous voyez, même le condamné à mort, il dit exactement ça, mais il n'a pas changé sa position.
Bon, vous dites, il faut débattre, on n'arrête pas de débattre en Inde là-dessus, les médias n'arrêtent pas de débattre sur ces sujets-là. Est-ce que les choses ont bougé pour les femmes victimes de violences depuis 2012, selon vous, Veijou?
Non. On a changé la loi, on a mis des pénalités qui sont plus fortes.
Ils ont été condamnés.
Voilà, ils ont été condamnés. Ces 5 ont été condamnés à mort. Il y a un 6e qui s'est suicidé en prison. Et le jeune qui avait 17 ans, il a été condamné à 3 ans dans une maison pour les jeunes, effectivement. Mais c'était le plus jeune qui était le plus violent. C'est lui qui a tiré les intestins de cette femme de son corps. Donc, il y a quand même des choses absolument
délit en
terrifié.
2014, plus de 2000 affaires de viol enregistrées dans la capitale, plus 31% par rapport à 2013. Ce qui est sûr, c'est ce qui a bougé quand même, ce sont les déclarations de violence faites aux femmes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Donc, là-dessus, oui. Bon. Les femmes commencent à sortir, peut-être c'est un début, mais surtout le problème est dans l'attitude des hommes vers les femmes.
Nathalie Kant, sans transition, vous souhaitez revenir sur un jeu vidéo sur la prostitution. Au Canada, c'est un jeu qui s'appelle The Oldest Game.
Oui, le plus vieux jeu.
Le plus vieux métier du monde.
Oui, exactement. Et c'est intéressant parce que c'est un jeu vidéo créé par une équipe de chercheuses de Concordia à Montréal.
L'université Concordia.
Oui, pour l'université Concordia. Et l'idée, c'est de mettre les joueurs, les gens qui vont jouer, face au dilemme d'une prostituée. C'est-à-dire d'une travailleuse du sexe. Le personnage s'appelle Andrea ou Andrea, d'après ce jeu-là.
Ça va pas faire un carton chez les garçons, ça, à mon avis.
Ou peut-être oui, parce qu'ils veulent aller voir, parce qu'à mon avis, ils vont vouloir aller voir si on voit les moments de l'intimité. Chose que je vous avance déjà, qu'on le voit pas. Et en fait, c'est plutôt pour mettre le joueur face à des situations que vivent les prostituées. Par exemple, quand elles vont voir quelqu'un, est-ce qu'elles doivent s'annoncer auprès de la réception pour dire « Attendez, je vais voir quelqu'un, sachez que je suis telle part », pour que les gens sachent qu'elle est là. Le but, c'est de ce jeu vidéo, c'est... de mettre les joueurs face au danger des femmes, parce que au Canada, il y a eu pendant un an un débat sur les dangers de la prostitution et comment il fallait législer la prostitution, parce que les anciennes lois ont été par la Cour suprême annulées et le maire conservateur avait proposé un nouveau paquet de lois qui a été rejeté et que finalement il a proposé de nouvelles lois qui ont été mises en vigueur là maintenant.
Qui criminalise les clients, les proxénètes et qui interdit la pub pour la vente de services sexuels.
Et surtout aussi les services ne soient pas proposés dans des lieux publics où il y a des enfants. Et alors là, les détracteurs de cette loi, ce qu'ils disent, c'est que les consommateurs de ce sexe vont aller à d'autres endroits plus isolés et ça met en danger les prostituées.
C'est ça, et c'est ce que disent les prostituées. Peur d'être acculées à accepter aussi des clients potentiellement dangereux, etc.
Oui.
Et donc ce jeu, donc il est censé servir à quoi? J'ai toujours pas bien compris.
Non. Et le jeu, c'est on se met dans la peau de une. En fait, c'est ça peut être une travailleuse du sexe, masseuse ou encore une escort girl dans l'une des trois grandes villes canadiennes. Et on va avoir un client. Le but, c'est gagner le plus d'argent possible sans se faire tuer.
D'accord.
En restant en vie. C'est-à-dire faire de l'argent en restant en vie. Mais je sais pas après, parce que moi, je suis pas une fan des jeux vidéo. Donc,
j'ai une petite question par rapport à, aux causes, en fait, où est-ce que ça va un peu plus en profondeur dans le sens où, par exemple, la prostitution est souvent très liée au trafic des êtres humains, tout ça. Est-ce que le jeu prend aussi ces aspects-là en
compte? Non, c'est vraiment comme essayer de gagner le plus d'argent possible tout en restant en vie et en même temps se mettre face à des situations que se mettent des prostituées juste pour que tout le monde, c'est-à-dire la personne lambda, comprenne. Comment c'est la vie d'une prostituée? C'est-à-dire, quand elle va dans le taxi, elle va voir un client, est-ce qu'elle dit au taxi, restez ici ou partez? Il y a la police qui va venir, faire attention, s'échapper de certaines situations.
Mais ce sont des jeux de mise en situation qui effectivement permettent de mieux appréhender les problèmes sociaux de ces femmes-là.
Oui.
Veijou Naravan, vous souhaitez revenir sur la Birmanie, le mariage interreligieux en débat avec un projet de loi qui vise à interdire aux femmes bouddhistes d'épouser des hommes non bouddhistes. C'est un sujet qui est déjà sur la table depuis 2 ans, pratiquement.
Oui, effectivement, il y a un projet de loi qui a été retoqué maintenant et renvoyé devant le Parlement. Il y a la société birmane qui commence à devenir de plus en plus conservateur, où les moines bouddhistes prennent une énorme place sur l'échiquier politique, aussi pas uniquement religieuse, et qui se montrent extrêmement violents, les choses qu'on n'attend pas des moines bouddhistes, parce qu'on a toujours tous eu l'image de bouddhisme comme une religion pacifiste, etc., mais il faut se rappeler que aussi bien dans le Sri Lanka où il y a eu cette guerre épouvantable entre les Sinhalais bouddhistes d'un côté et les Tamouls qui sont plutôt chrétiens, hindous ou musulmans dans le nord du pays, c'était souvent des moines bouddhistes qui étaient à la tête des campagnes contre les minorités, etc. Dans la Birmanie, il y a eu une campagne extraordinairement violente contre la minorité musulmane qui s'appelle les Rohingyas. Et la société birmane est composée des chrétiens, des hindous, des musulmans et des bouddhistes. Et maintenant, on dit, pour garder la pureté de la religion, etc., on va pas laisser les femmes bouddhistes épouser les non-bouddhistes.
À l'heure actuelle, si une femme veut se marier avec un musulman, elle doit avoir l'autorisation de ses parents des autorités locales ou
Exactement. Et ça va devenir absolument impossible. Parce que si les parents sont d'accord, mais l'autorité locale pense que ça va mener à une espèce de problème d'ordre public, parce que la société va pas être contente, ils peuvent refuser la permission.
Il nous reste très très peu de temps avant la fin de l'émission. Je voudrais quand même qu'on donne la parole à Nathalie Kant à propos de l'Espagne. On a beaucoup parlé avec vous, les tchatcheuses. Ça, c'est le sujet sur lequel vous souhaitez revenir en permanence. Quand il y a eu tous ces débats sur la possibilité d'interdire l'éventualité d'interdire l'avortement en Espagne avec tous ces débats parlementaires il y a quelques mois. Aujourd'hui, le projet supprime la possibilité pour les mineurs de donner leur seul consentement pour avorter. Je dirais c'est un moindre mal par rapport à tout ce qui guettait les Espagnols, femmes espagnoles.
Les Espagnoles, elles ont acquis le droit à l'avortement en 2010 quand le chef de gouvernement espagnol, c'était José Luis Rodríguez Zapatero, un socialiste, et après très longtemps, puisque jusqu'à maintenant c'était pas comme ça, elles avaient droit à avorter. Donc la promesse de campagne de l'actuel chef de gouvernement conservateur Mariano Rajoy, l'une de ses promesses de campagne, c'était revenir en arrière avec ça, avec des conditions encore plus strictes que celles de 86, je crois. Donc débat dans la société, des gens pour, des gens contre, finalement.
Grosse manifestation. Aujourd'hui, vous dites, le fait de supprimer la possibilité pour les mineurs de donner leur seul consentement, c'est-à-dire d'être obligé de demander l'autorisation parentale, c'est bien ça.
Oui.
Vous dites, Nathalie Kant, c'est encore une restriction de liberté pour les femmes?
Qu'elles doivent, c'est-à-dire le projet de Rajoy, totalement, parce que, c'est-à-dire, en lisant un peu, on se rend compte qu'en Espagne, peut-être c'est pas un grand nombre, il y a juste 400 filles mineures par an qui demandent à ne pas avoir le consentement de leurs parents parce qu'elles ont des problèmes dans leur maison. Donc, ce que dit tout le monde, et je pense que c'est vrai, c'est que si, en plus, à ces filles, on demande le consentement obligatoire de ses parents, finalement, ce sont les plus fragiles qui ne sont pas protégées. Oui. Parce que celle qui va demander à ne pas avoir l'autorisation de son père pour pouvoir le faire, c'est celle qui est battue chez elle, son père en prison, des abus partout. Et elle veut pas que son père, qui est méchant et c'est horrible, lui dise « Non, en plus, tu vas voir l'enfant. »
Anoulina Sovalainen, ça vous inspire quoi?
Je suis un peu d'accord avec Nathalie sur ça. C'est qu'effectivement, ça peut poser ce genre de problème dans les familles, ou bien que les filles, au final, n'avortent pas, mais du coup, ça peut être malheureux aussi pour la suite.
Ou dans des conditions dramatiques pour leur santé.
Oui, et le problème est toujours que quand il y a une fille qui est mineure, qui tombe enceinte, souvent, il y a des associations archi-catholiques, archi-fondamentalistes, etc., qui sont anti-avortement, qui disent, on va obliger à cette jeune femme d'avoir l'enfant, quitte à le mettre pour l'adoption après. Donc, je vois pas où est la solution.
Voilà, avant la fin de l'émission, les tchatcheux, je voudrais que vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. C'est d'accord?
Oui.
Vous partez pas. Je voudrais qu'on vous présente un reportage dans quelques instants. Alors là, ça va être sur le drame de l'habitat insalubre. Ça se passe en France et cela en dit long sur la paupérisation actuelle. Ça sera juste après Break the Rules. Electric lights blow my mind. But I feel alright. I never stop, it's how we ride. Coming up until we die. Charlie XCX britannique, direction Roubaix maintenant, dans le nord de la France. Vous imaginez bien ces villes du nord de la France, petite maison ouvrière en briques rouges. Ça, c'est pour la grandeur passée de la ville qui fut la capitale mondiale de l'industrie textile, Roubaix, jusque dans les années 70. Aujourd'hui, Roubaix, c'est plutôt 35% des habitants au chômage, donc très mal logés. Un problème d'ailleurs souvent oublié par les pouvoirs publics. L'association Mécatrans a monté une ressourcerie pour améliorer l'habitat des plus pauvres. Et Alice Milo, notre reporter, a accompagné Eric Mormann lors d'une visite au cœur du mal logement.
Ramener le soleil? Non, pour ramener le soleil.
Il fait froid.
Oh.
C'est froid, c'est
vrai. Mais en plus, j'ai un problème de chauffage, il s'arrête tout le temps. Et c'est une nouvelle chaudière.
Il y a la pression d'eau. Il faut regarder.
Regardez, ça s'arrête tout le temps, est arrêté.
À mon avis, il y a de l'air dans un radiateur. Donc cette dame a fait appel à nos services. On a commencé par désinfecter le haut, où il y avait l'intrusion des chats. Il rentrait par un carreau cassé. On a enlevé les vieilles moquettes. On a nettoyé les sols, les murs, les rampes, enfin, tout ce qu'il y avait à nettoyer.
C'est ma maison, je veux quand même vivre dans une belle maison.
Les matériaux, finalement, donc vous les récupérez à droite, à gauche, de dons?
Oui, de dons de magasins de bricolage. Placo, enduit, radiateur, peinture, de tout, quoi. Cabine de douche. des peaux oxydantées, bosselées ou en pâture, qui détruisent systématiquement si on ne récupère pas.
Yves Martins, trésorier de Mecatrans. Nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Ce qui fait qu'on travaille énormément avec des gens d'Roubaix qui sont sous les minima sociaux, de familles monoparentales, 3-4 enfants à charge. C'est vraiment des travaux de salubrité. L'entrée est complètement bouchée par des immondices. C'est à peine si on voyait au travers de la fenêtre. Tout ça est à déblayer d'abord, pour ne pas parler d'une toiture sur le point de s'effondrer, d'un mur lézardé ou des choses comme ça.
Donc les gens se retrouvent dans des appartements insalubres, ils n'ont pas les moyens de les rénover eux-mêmes.
Oui, bon, la population de Roubaix est extrêmement pauvre. Plus de 50% en dessous des 900 euros par mois. 44% de 16-25 ans qui n'ont pas d'emploi. C'est énorme.
Donc depuis 30 ans, il y a eu une paupérisation de la ville.
Oui, progressive mais réelle. Encore aujourd'hui, il y a d'autres grosses entreprises telles que la Redoute qui mettent la clé sous la porte, mais la plupart des entreprises textiles ont disparu. Il y a une sorte de spirale infernale qui mène complètement au désœuvrement. Pas d'emploi, pas de salaire, pas de logement, pas de véhicule, pas d'emploi, pas de salaire. Tout est absolument lié. Si on, d'un côté, avec les familles, on trouve des solutions pour améliorer l'habitat, les enfants ne seront plus dans un coin à la chandelle pour faire leurs travaux. On l'a constaté, il y a des foyers, dès le mois de septembre, quand il commence à faire noir, les enfants font leurs travaux à la chandelle, je n'exagère pas, ça existe. Ils vivent de brick and brock, il faut voir quand c'est les encombrants, le nombre de personnes qui circulent dans les rues pour essayer de trouver des choses.
Ils font leurs courses sur le trottoir.
Ça y ressemble parfois un peu. On a déblayé une cave il y a une semaine, on a déposé 50 sacs qu'on devait récupérer quelques heures plus tard avec une remorque double essieu, la moitié des sacs étaient éventrés. Il y avait des boîtes de conserve qui dataient de 10 ans, puisque c'était une personne âgée, elle avait entassé ça, les boîtes de conserve étaient parties, c'est quand même révélateur.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bienvenue, ben, rentrez au salon madame. J'allais venir l'après-midi chez vous, dans le bureau, pour payer le reste. Parce que moi, bon, quand je ne paye pas le reste, je ne suis pas bien dans ma tête.
Donc ici, on est dans le quartier de l'Épaule, un quartier fort populaire. Cette dame habitait dans un logement, mais plus que précaire. Très, très insalubre. Oui. Elle a repris cet appartement ici, qui est pas mal, quoi, qui est un logement social, chez les bailleurs sociaux, mais qui n'était pas tellement propre. Elle nous a demandé de refaire son living et d'adapter surtout la salle de bain par rapport à l'handicap de l'enfant.
Elle a un fils qui est atteint d'une trisomie, hein, c'est
voilà.
Ça ?
Voilà, ouais. Elle a un fils qui est trisomique. Donc la baignoire n'était pas accessible pour ce garçon, pour que cette dame qui est mère au foyer, quoi, et seule, se sente bien avec ses trois enfants.
Ici, il y a la peinture, regardez, c'était propre. Ils ont fait trois couches, le mur, le plafond. Et un beau travail, c'est un travail de cœur. Comme on a en touche que le RSA, une femme tout seule avec trois enfants, c'est pas évident. On cherche des petits prêts.
Mégatrans fait des travaux chez vous, mais vous payez quand même en fait.
Oui, je paye, mais à un prix raisonnable. Moitié prêt de l'entreprise de luxe, quoi, on va dire. Et j'ai galéré de le voir, sérieusement, mais maintenant je suis contente. Le bailleur social, qu'ils ont compris ma galère avec les bailleurs privés. J'étais dans un appartement, ça n'a rien à voir avec celle-là. On va dire sale, plein de souris, pas isolé. J'ai claqué beaucoup de factures de gaz. Et là, je suis contente parce que je vais envisager de faire beaucoup de travaux, mais avec Mégatrans. Voilà. On ne cherche pas le luxe, madame. On ne cherche qu'un appartement grand et propre, et c'est tout.
Voilà, c'était un reportage d'Alice Milo à Roubaix sur le travail de l'association Mégatrans. On peut se demander en même temps si c'est pas un pansement sur une plaie béante, comment de tels logements peuvent être loués dans un tel état, etc. etc. Réaction, mesdames les tchatcheuses.
Bah, le logement, c'est un scandale. À Paris, c'est un scandale. Quand on voit dans la manière dans laquelle les gens louent les choses, vous avez les soi-disant chambres qui font 5 mètres carrés qui sont louées pour 300 euros, 500 euros. Mais il n'y a rien. Le minima qui est demandé par la mairie, c'est 7 mètres carrés. Les propriétaires mentent. Il y a des douches insalubre et absolument épouvantable, pleine de cafards et tout. Mais vraiment, il y a une espèce de gourmandise chez les gens qui louent leur appartement à Paris qui est extraordinaire.
Et la gourmandise, elle sera nourrie de plus en plus, je pense, par l'augmentation des pourcentages des pauvres, soit à Paris, soit en France en général, soit en Europe.
Je vais parler seulement de Paris parce que le reste de la France, je ne connais pas, mais je ne peux pas croire le drame pour louer un appartement en bonne condition à Paris. La quantité de papiers qu'on demande. D'un côté, il y a la maire de Paris qui propose 65 000 logements sociaux d'ici la fin de sa gestion en 2020. C'est vrai, ce sont des choses qu'on a besoin. Elle dit que c'est pour les classes populaires et aussi pour les classes moyennes. Elle pense que la classe moyenne, c'est par exemple les foyers qui gagnent jusqu'à 7 000 euros par mois. Donc, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et après, quand on essaye d'aller louer un appartement...
Vous repensez tout de suite à votre situation, les unes et les autres, effectivement. Non, mais quand on pense au mal logement pour les plus pauvres, est-ce que vous comprenez que ça puisse enfoncer davantage les gens dans la pauvreté, comme c'est exactement ce qui vient d'être décrit.
Oui, moi totalement.
C'est-à-dire qu'ils dépensent plus d'argent que nous toutes pour pouvoir survivre au quotidien dans un logement insalubre, parce qu'il y a des fuites d'eau, des fuites de le froid, terrible. Etc.
Oui, mais je voudrais aussi dire que la mairie de Paris a des tactiques qui sont tout à fait... on peut les interroger là-dessus. Parce que maintenant, la mairie de Paris a mis une préemption renforcée sur quelque chose comme 257 immeubles à Paris. Ça veut dire que si votre immeuble tombe sous cette loi,
Véjou,
vous ne pouvez pas.
Ça y est, on est sur le scandale du logement à Paris avec Véjou Naraval.
À la mairie.
Merci à toutes les trois, les tchatcheuses. Vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Véjou Naraval, tchatcheuse indienne, Nathalie Kant, journaliste argentine, Anulina Savolainen, journaliste finlandaise. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars. Demain, 7 milliards de voisins, à 2 jours de la Journée internationale des femmes, on fera le bilan des objectifs pour le millénaire du développement concernant les femmes, accès à l'éducation, lutte contre la pauvreté et droits des femmes. À demain.